Avant de commencer, je voudrais aller dans un mot de prière pour demander l'aide de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Ce matin, Dieu, je prie que par ton Esprit Saint, tu vas arroser ta parole. Tu vas la faire grandir dans nos cœurs, tu vas l'appliquer à nos cœurs, Père. Sans toi, c'est impossible. Et donc, par nous, applique la parole, Seigneur, aide-moi, touche mon cœur, Seigneur, et touche le cœur de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, en ligne et sur place. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, j'aimerais ça vous poser une question. Avez-vous déjà été déçu des promesses de quelqu'un? Peut-être que c'est quelque chose de banal comme... Un ami t'a promis de te redonner un crayon. Ça, c'est la petite école, là. Tu donnes ton crayon à ton ami, puis là, quelques jours plus tard, tu ne le retrouves plus, tu ne trouves plus ton efface. Tu te dis, bien, il me semble, hey, où mon efface? Bien là, tu réalises que ton ami ne te l'a jamais redonné. Ou peut-être encore plus, c'est quand tu étais jeune, c'était tes parents, peut-être. Peut-être ton père ou ta mère avait promis qu'elle allait venir à un match de sport ou à une présentation, puis ils ne sont pas venus finalement. Ou peut-être que même c'est avec ton époux ou ton épouse qui t'a promis de sortir une soirée, et finalement, à cause du travail, à cause de plusieurs choses, ils ne l'ont pas fait. Dans la vie quotidienne, on est souvent déçus, n'est-ce pas? En tant qu'être humain, avec les autres, les uns avec les autres. Et ça amène déception, ça amène de la tristesse, un découragement. Est-ce qu'on peut faire confiance? Dans l'histoire d'aujourd'hui, on voit la même chose. On voit un homme de Dieu, comme nous. Il s'appelle le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était le roi d'Israël, du peuple de Dieu. Judas est situé aujourd'hui dans l'environ d'Israël. Et puis, il était en charge d'un peuple, une grande responsabilité. Mais à ce moment-là, au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, il faisait face à l'Empire assyrien. L'Empire assyrien, c'était le plus puissant empire à ce moment-là, au Moyen-Orient et dans ce coin-là. Il était dirigé par le roi, son nom il est difficile à dire, Sérachib, en tout cas. Il était dirigé par le roi d'Assyrie, était très puissant. Et aujourd'hui, on va être dans Ésaïe 37, mais laissez-moi vous donner un contexte. Dans le chapitre 36, on voit que l'Assyrie vient aux portes de Jérusalem. Et puis là, le commandant de l'armée, Rabshaké, lance des menaces au peuple d'Israël pour les décourager. Il reproche même au roi de faire confiance en Égypte, qui est une autre puissance à ce moment-là. Il reproche toutes sortes de choses, veut décourager le peuple de Dieu, veut faire douter le peuple de Dieu envers le roi, puis leur promettre prospérité et sécurité. Donc, angoissé, le roi Ézéchias va à la maison de Dieu, mais il a très peur, il commence à douter Dieu. Regardez les mots dans le chapitre 36, il dit « Peut-être l'Éternel... » Il envoie un message à Ésaïe, le prophète de Dieu, il dit « Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie a envoyées? » Donc « Peut-être, ton Dieu, il utilise « ton », donc il doute Dieu. Il y a la chienne. Il envoie le message à Ésaïe, puis il dit « Je ne sais pas quoi faire, fais quelque chose. Peut-être que Dieu va faire quelque chose, je ne sais pas, mais fais quelque chose. » Et puis là, Dieu donne une promesse à Ézéchias. Regardez ce que Dieu dit. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Fais-toi-en pas. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Donc Dieu donne une promesse à Ézéchias. Non seulement que le roi d'Assyrie, l'armée d'Assyrie, va retourner dans leur pays, mais qui vont mourir là aussi. Maintenant, imaginez la réaction d'Ézéchias. Vraiment, Dieu, tu vas faire fuir le roi d'Assyrie à son propre pays et le détruire dans son propre pays? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de l'Empire d'Assyrie, mais laissez-moi vous expliquer un peu il était qui et à quel point il était puissant. Le roi d'Assyrie, le grand Sachérib, dominait les territoires à ce moment-là, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, et étaient reconnus pour leur avancement militaire. C'était l'un des premiers à utiliser l'argent à place du bronze. Comme vous savez, l'argent, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus coupant. Donc, ils étaient vraiment avancés militairement, mais aussi, ils étaient les pionniers dans l'ingénierie. Il y avait une unité spéciale pour l'ingénierie, que ce soit pour les échelles, boucher les trous, ou même, ils étaient les pionniers dans l'invention du bélier, qui était pour détruire les murs ou passer à travers les défenses d'une ville. Donc, ils vivaient pour la guerre. Donc, c'est ça qu'Ézéchias avait en tête, mais encore pire. Ils aimaient la brutalité. J'ai regardé des effets historiques de ce qu'ils faisaient à ceux qui survivaient, ou même des prisonniers ou des esclaves, et c'est graphique. Préparez-vous, je vous avertis. Ils enlevaient la peau souvent, leurs victimes, puis les aveuglaient et les empalaient sur des poteaux. Parfois, ils leur coupaient la tête, parfois, ils les attachaient à leur chariot et les faisaient traîner dans la rue, pour semer la peur dans la ville. Ils coupaient même les langues parfois pour qu'ils ne puissent plus parler. Donc, quand Ézéchias pense à Syrie, c'est comme « No way! Seigneur, tu vas vraiment faire ça, tu vas vraiment nous sauver d'Assyrie. » Et aujourd'hui, on peut être comme ça aussi, on voit une promesse de Dieu, puis on se dit « Ben non! » On voit les relations humaines qu'on a eues, on voit les promesses qui n'ont pas été remplies, on met ça vers Dieu, on dit « Est-ce que Dieu, tu vas réellement répondre à tes promesses? » Peut-être que c'est une souffrance que tu vis aujourd'hui. Tu regardes les promesses de Dieu, puis tu te dis « Ben, c'est pas vrai, ça. » Peut-être que c'est autre chose, mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? » Et je l'ai mis en d'autres mots « Est-ce que tu peux miser sur Dieu? » Pas une image parfaite, mais c'est utiliser le mot comme dans un jeu, dans un jeu de poker où tu mises. Est-ce que tu peux tout miser sur Dieu? Est-ce que tu peux lui faire confiance en ses promesses, en sa parole? Et pour faire ceci, même avant de gager ta vie, tu dois comprendre trois choses. Le prix de miser sur Dieu, ça coûte quelque chose. Deuxièmement, les chances de miser sur Dieu. C'est-tu 50%? C'est-tu 15%? C'est quoi? C'est quoi l'assurance? Et troisièmement, la récompense de miser sur Dieu. C'est quoi que j'ai après ça? C'est quoi qui arrive? C'est quoi au-delà de tout ça? Donc, le prix, les chances et la récompense de faire confiance à Dieu, de miser sur Dieu. Maintenant, je voudrais inviter Julie à venir lire la parole de Dieu pour nous ce matin.
Bon matin. Le passage biblique de ce matin est tiré dans Ésaïe 37, les versets 8 à 18, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Ésaïe 37, versets 8 à 18. Rabshaké, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comme ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef, et les fils d'Éden qui sont à Telassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaim, Déna et Diva? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sanchérib à envoyer pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires.
Merci, Julie. Donc, premièrement, le prix de miser sur Dieu. Ça coûte quelque chose. Pour commencer, on voit dans l'histoire que Dieu commence à répondre à ses promesses. On voit que le commandant Rabshaké retourne à la nouvelle, à une nouvelle. Et même que le roi d'Éthiopie, qui vient de l'Afrique, va vers la Syrie pour les attaquer. Et donc, on voit la main de Dieu déjà juste avec un seul mot. Et un commentateur qui dit avec un seul mot, un seul petit mot, Dieu contrôle l'histoire. Donc, on voit déjà la main de Dieu, mais le roi Sachérib dit à Ézéchias, « Oui, on s'en va, mais t'inquiète, je t'oublie pas. J'ai pas fini avec toi. » Regardez ce qu'il dit, comme on a lu. Il dit, « Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Donc, le roi d'Assyrie appelle Dieu un abuseur. Regardez, ne t'abuse point. Donc, il remet en doute la parole de Dieu. Donc, le roi Ézéchiel, devant cette menace, imaginez comment il serait senti. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Auparavant, il avait réagi avec peur, n'est-ce pas? Il s'est dit, Ésaïe, fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais peut-être que le Dieu va faire quelque chose, qui sait? Mais, pour que Ésaïe fasse confiance en Dieu, ça va coûter cher. Pourquoi, vous dites? Le prix, ça va être sa sécurité, n'est-ce pas? Il sait très bien que s'il tourne mal, s'il fait confiance à Dieu puis ça ne marche pas, il va être exécuté, mis en esclavage ou serviteur, soumis à toutes sortes de tortures. Peut-être qu'il s'aurait dit, peut-être qu'on peut faire confiance en l'Égypte, une autre puissance encore plus puissante que nous. Ou peu importe. Donc ça va coûter sa sécurité, mais même sa prospérité. Une fois conquis, le peuple serait envoyé en esclavage à travers l'Empire. Ou comme serviteur, c'était une des stratégies des empires à ce moment-là. Il éparpillait le peuple partout. Ou peut-être qu'ils pourraient capituler, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont une bonne foi, la Syrie, mais comme on voit dans l'histoire, ils ne sont pas très miséricordieux. Donc devant toute cette menace-là, devant le prix de sa sécurité, de sa prospérité, non seulement ces deux choses-là, mais le plus important, le prix de miser sur Dieu, ça va coûter ta vie entière. Regardez comment le roi réagit. Devant la menace, il ne sait plus quoi faire et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va vers Dieu. Il va vers Dieu, il le lit la lettre, va devant Dieu, se courbe devant lui et ouvre littéralement la lettre devant Dieu pour que Dieu le voie, même si Dieu, sûrement qu'il l'a déjà vu, mais c'est comme un symbole pour lui de mettre les paroles du roi devant Dieu, de tout mettre sur Dieu, tout miser sur Dieu, et arrive à la fin de lui-même. Et voici ce qu'il prie. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubim, le Dieu tout-puissant, qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. » Donc, il reprend le roi qui disait que ses dieux étaient plus puissants. Non, l'Éternel est le seul Dieu. Éternel, incline ton oreille. Écoute, Seigneur. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles du roi Sanchérib qui a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel. Donc, le roi Ézéchias n'ignore pas la réalité. Il dit, il est vrai, Seigneur. Il est vrai qu'ils ont conquéri tous ces territoires. Mais ce n'était pas leur Dieu. C'était des ouvrages de main d'homme. Donc, il prend la vérité de Dieu et vraiment correct ce que le roi a dit, mais regardez verset 20, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous, Seigneur. » Mais pour quelle raison? Pas pour lui-même, pas pour sa propre gloire, mais pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Donc le roi a compris une leçon que nous, dans l'Ouest, on a de la difficulté à apprendre. Que suivre Jésus, c'est donner sa vie pour la gloire de Dieu. Comme on a vu l'image du poker, le but du jeu, c'est d'amasser tous les jetons, n'est-ce pas? Pour ce faire, vous allez miser vos propres jetons selon les deux cartes que vous avez ou les cartes au milieu, des paires, des couleurs ou des suites, etc. Tous ceux qui jouent au poker savent que tu dois prendre des risques, n'est-ce pas, si tu veux gagner. Sans risque, tu ne vas jamais aller loin, tu vas juste suivre. Mais éventuellement, tu ne vas plus avoir de jetons. Si tu n'es jamais allé all-in, miser tous tes jetons, tu n'iras jamais très loin. Puis dans la vie chrétienne, nous sommes souvent satisfaits de juste donner quelques jetons. Un 10 % notre temps ou un 10 % de ci ou de ça. Mais comme un commentateur a dit, Jésus n'est pas la partie la plus importante de ta vie. Il est ta vie. Il est ta vie. Donc, en tant que chrétien, on a deux choix. Tu lui donnes ta vie ou tu ne lui donnes pas du tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Ta sécurité et ta prospérité, tu dois être prêt à les donner ou perdre pour Dieu. Comme le roi Ézéchias, tu dois être prêt à aller devant Dieu, devant la souffrance, devant les difficultés, puis dire, Seigneur, je mets tout devant toi. Ma prospérité, ma sécurité, ma vie, mon peuple, les gens que je connais, ma famille, je mets tout devant toi. Seigneur, agis, je fais confiance à tes promesses. Comme Jésus dit à ses disciples, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il est en train de dire que tu perdras ta vie pour Dieu, mais tu la gagneras. Puis l'inverse, c'est en essayant de la sauver que tu la perdras. Puis à travers tout ça, c'est libérateur. Mais comment demandes-tu? Bien sûr, la prospérité, la sécurité, plusieurs bénéfices, confort, paix d'esprit, c'est des créations de Dieu, c'est bon. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le problème, c'est la prospérité ou la sécurité? Non. C'est beaucoup plus profond. C'est un problème d'amour. Augustin, père de l'Église, parlait des amours ordonnés. Il parlait de ces amours-là, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour des autres, que ce soit pour des choses créées. Il dit qu'au-dessus de cette liste, c'est Dieu. Puis qu'après Dieu, toutes les choses se placent correctement. Parce que toutes les choses créées n'ont pas été créées pour être aimées comme on aime Dieu. Notre vie n'a pas été créée pour qu'on la serre. On est fragile. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu serres quelque chose trop fort? Ça brise. Ou que ce soit des choses créées par Dieu n'ont jamais été créées pour qu'on les aime de tout notre cœur. Qu'il y ait toute notre attention. Non, non, non. Augustin disait, quand tu aimes Dieu, toutes les choses se placent et c'est libérateur. Donc le problème, c'est un problème d'amour. Donc aujourd'hui, quel est ton amour? Et c'est en changeant de cœur de ton amour que tu pourras ouvrir tes mains et donner ta vie à Dieu. Donc le prix de miser sur Dieu, c'est non seulement ta vie, c'est non seulement ta prospérité, ta sécurité, mais c'est ta vie entière. T'es all-in ou tu te couches, pour utiliser le langage du poker. Avant de parler de la récompense, par contre, point numéro 2, les chances de miser sur Dieu. L'assurance, c'est quoi l'assurance que tu as une fois que tu mises sur Dieu, une fois que tu fais confiance aux promesses de Dieu? Quelles sont tes chances? Avec Dieu, c'est même pas une question de chance, n'est-ce pas? C'est même pas une question de chance. Il est souverain. Comme l'expression québécoise dit, c'est arrangé avec les gars des vues. Dieu a tout arrangé, il est souverain. Même si, de la perspective du roi d'Assyrie, tout est son œuvre et tout est son dessein. Donc, regardez dans les prochains versets, Dieu compare ce que le roi d'Assyrie pense et ce que réellement Dieu est, ce qu'est la réalité réellement. Regardez verset 21, comment Ésaïe répond. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. » Donc là, il parle contre le roi d'Assyrie. Il dit, « Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête, rappelle-toi, la fille de Jérusalem. » Donc ici, la Vierge, la fille de Sion, c'est une image pour Israël, toute fragile, qui se moque du roi d'Assyrie. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux vers le haut, contre le Saint d'Israël. Donc le roi d'Assyrie est orgueilleux. Il a levé les yeux contre l'Éternel. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, aujourd'hui ça peut être des chars d'assaut, j'ai gravi le sommet des montagnes. En ce moment-là, les montagnes, c'était les choses les plus hautes. On pourrait dire aujourd'hui, j'ai gravi la planète Mars, j'ai gravi la Lune, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'attendrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Avec ma technologie militaire, je ferai tout ce que je veux, je couperai tous les arbres, les plus gros, les plus petits. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Donc, c'est l'image de son pied qui tarit tous les fleuves de l'Égypte. Donc, le roi d'Assyrie se pense comme souverain, et ça, c'est une insulte à Dieu. Donc, le roi d'Assyrie est orgueilleux, il croit être souverain. Dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait que le roi d'Assyrie dit « mise sur toi-même ». Mise sur toi-même et tu feras ce que tu veux. Tu pourras accomplir des choses incroyables. Comme un commentateur dit, sa confiance est en sa propre puissance, auteur de son propre succès, maître de son propre futur. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Les maladies que tu attrapes, tu ne contrôles pas les gens autour de toi, même le gouvernement sous lequel on est souvent, on ne contrôle pas, dans lequel on est né. Un jour, tu promets quelque chose, un jour, tu ne le fais pas. Donc, on est très inconsistant en tant qu'être humain. Puis l'orgueil, c'est comme une balloune. Imaginez un enfant, c'est sa fête, ses parents lui donnent une balloune, et il est tout excité, puis là, il commence à la souffler, ses parents lui montrent, là, à grossir. Rendu grosse comme ça. Puis là, il l'attache. Puis là, il se promène, il dit, « Regardez ma balloune, elle est tellement hot. » Il se promène. Puis là, tout à coup, il y a un enfant qui passe à côté, puis qui appète. Pa! Imaginez la réaction de l'enfant. Les petites larmes qui coulent. Là, il se retourne. Puis là. Ben, l'orgueil, c'est un peu comme ça. C'est comme cette balloune-là, qui est belle, mais qui est remplie d'air. Même la Bible parle d'être gonflé d'orgueil. Mais, comme on a vu, c'est comme une balloune qui, une fois la souffrance arrive, cet orgueil éclate et elle est vide. Et c'est ça pour le roi d'Assyrie. Mais il se mise sur lui-même, mais, en fin de compte, il est au contrôle de rien. Regardez ce que Dieu dit, parce que Dieu est souverain. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Que je l'ai résolu dès les temps anciens. Donc, Dieu utilise un petit peu de sarcasme. Roi d'Assyrie, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ça? Ceux ici qui sont sarcastiques, c'est comme, hey, « Amen! » Que je l'ai résolu dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc, c'est Dieu qui a permis ces choses, qu'il a permis de conquérir, de faire tout ce qu'ils veulent. Regardez verset 26. « Mais je sais que quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres, quand tu es furieux contre moi, Dieu sait tout. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ultimement, l'orgueil te ramène au chemin de départ. » Comme ici. Une des vérités dans ce passage-là, c'est que la plus humiliante chose qui puisse t'arriver, c'est de réaliser la souveraineté de Dieu. Une fois que tu réalises la souveraineté de Dieu, ça t'humilie. Une fois que tu réalises que tu n'es pas le centre de l'univers, d'un certain côté, c'est humiliant, mais c'est libérateur. Ta vie n'est plus entre tes mains, mais entre les mains de Dieu. La clé de la souveraineté ouvre la porte de l'humilité. En tout cas, une des clés. Comme les Écritures disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Quand tu sais que Dieu est souverain, ta vie est entre ses mains. Regardez verset 36, 35. Et là, il promet, « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi. » C'est Dieu qui dit ça. « Et à cause de David, mon serviteur. » Donc, non seulement il va sauver le roi Ézéchias parce qu'il a promis qu'il allait le faire, puis à cause de sa promesse au roi David, que David allait avoir une descendance mais c'est pour lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. C'est une bonne nouvelle que Dieu le fait pour lui-même, parce qu'il fait à cause de nous, on est défaillant, facilement ébranlé. Donc, pouvons-nous miser notre vie sur Dieu et ses promesses? Mais pour faire cela, ça va coûter ta vie. Puis, quelles sont les chances? Ben, c'est même pas une question de chance. Dieu est souverain, au-dessus de tout. Mais maintenant, quelle est la récompense? Point numéro 3, la récompense de miser sur Dieu. En misant ta vie, tu la sauves. Regardez le reste de l'histoire. En misant ta vie sur Dieu, tu la sauves. L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. La parole de Dieu s'accomplit. Il sauve Israël, et non seulement ça, il a fait ce qu'il a dit. Le roi d'Assyrie retourne dans son pays, et il est tué par ses propres fils. Regardez ce que ça dit. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisrog, son dieu, il y a comme un contraste entre Ézéchias et le roi d'Assyrie. Adramélec et Shrester, je ne sais pas si je le dis bien, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Donc son fils prend sa place. Donc Dieu accomplit sa promesse. La parole de Dieu s'accomplit. Gloire à Dieu. Mais l'histoire ne finit pas là, n'est-ce pas? Si je fais juste vous dire ça, c'est comme une motivation, n'est-ce pas? Donne ta vie à Dieu, tu vas être capable, mets sur toi-même, mets sur Dieu. Mais regardez, je ne vous ai pas dit encore un verset, j'ai skippé trois versets. Regardez verset 30 à 32. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez les vignes, vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus, dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que le fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, ici on parle qu'Israël va être sauvé, mais si Israël va être sauvé, puis regardez, ça dit, il va avoir un reste et des réchappés. Par définition, un reste, c'est ce qui reste après une destruction, n'est-ce pas? Des déchets, des bâtiments détruits. Des réchappés, c'est des gens qui survivent un jugement. Et comme on le voit dans le récit biblique, on voit que le peuple de Dieu n'est pas toujours fidèle. Et même après cette histoire, cette partie-là de l'histoire du roi Ézéchias, Ézéchias est orgueilleux. Quand le roi de Babylone vient pour visiter la ville, qu'est-ce que le roi Ézéchias fait? Il lui montre tout son or. Et donc, il commence à faire confiance à ses propres, à l'or qu'il a ou les richesses qu'il a. Et Dieu promet qu'il va juger Israël parce qu'ils ont fait confiance, non en Dieu, mais en leur propre richesse, en leur propre Dieu qui crée eux-mêmes. Et on voit ça à travers la Bible, n'est-ce pas? On voit que Dieu, malgré tout, il juge, oui, Israël, il garde un reste. On voit ça après le temps des rois. On voit qu'ils sont envoyés en exil à Babylone et puis ensuite, ils retournent à Jérusalem. Il y a un restant, mais ce restant-là, il n'est pas fidèle. Il retourne à les anciennes voies qu'ils avaient. Et à travers la Bible, on voit tout ça. Dieu, malgré notre péché, continue à garder un reste, des réchappés. Que ce soit pour Noé, avec le déluge, malgré notre péché, Dieu choisit un reste. Malgré le péché de David, Dieu garde un reste. Malgré le péché du roi Ézéchias, Dieu garde un reste. Mais vient un dilemme. Comment Dieu, dans son amour et sa justice, va garder son reste? Est-ce qu'il va le garder jusqu'à l'infini, jusqu'à temps que quelqu'un soit parfait? Peut-être que vous êtes ici puis vous vous dites, ben, Jonathan, comment tu veux qu'on mise notre vie sur Dieu quand toutes les personnes dans la Bible ont échoué? Littéralement. Comment tu veux qu'on fasse ça? Mais gloire à Dieu. Dieu avait un plan. Dieu a envoyé son Fils sur terre, complètement homme, complètement divin. Il a vécu la vie parfaite. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Mais non seulement ça, il a tout misé. Il a laissé sa prospérité, sa sécurité au ciel, est venu sur la terre. Et non seulement ça, il a donné sa vie sur la croix. Il a été jugé, il a subi le jugement de Dieu. Et ensuite, il a été ressuscité des morts pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est le réchappé et le reste parfait. Jésus-Christ n'a pas donné ses restants, n'a pas échappé la mort, mais passé à travers pour qu'il puisse rassembler des réchappés avec lui. Vous savez quoi? Maintenant, on n'a pas besoin de le faire par nos propres forces, par nos propres faiblesses, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on peut vivre comme le peuple de Dieu. On peut continuer à être fidèle, non par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu. Alléluia! Et un jour, on va être auprès de Dieu. Et notre récompense, ça va être beaucoup plus que juste la richesse. Parce qu'on voit dans Apocalypse, on voit qu'on va être dans une ville avec Dieu. Mais le passage se concentre sur la présence de Dieu. Et donc la récompense, ça va être même plus des choses matérielles. La relation, ça va être Dieu lui-même. Et c'est ça que Dieu fait. Quand on réalise ce que Christ a fait, on est libéré à le servir. On est libéré à l'aimer. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on a vu jusqu'à maintenant aujourd'hui le prix de miser sur Dieu, les chances, la récompense. Donc, comme la question qu'on a vue aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? La réponse est oui, mais pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on mise sur nous-mêmes, mais parce qu'on mise sur Jésus-Christ. C'est lui le reste fidèle. C'est lui qui nous donne sa justice. Donc, en conclusion, je vous donne quelques applications. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui ou en ligne, puis vous n'êtes pas chrétien. Même un sceptique ou d'une autre religion. Vous entendez ce que je dis et vous pensez, servir Dieu, comme ça sonne comme l'esclavage, n'est-ce pas? Puis je comprends ce que vous voulez dire. Ça sonne comme de l'esclavage, donner sa vie à quelqu'un comme ça. Mais je veux juste vous laisser avec une question aujourd'hui. Ne serais-tu pas toi-même esclave de quelque chose ou de quelqu'un? On vit tous pour un certain but, n'est-ce pas? Et ce but-là, on va donner tout notre amour, tout notre temps, tout notre effort pour ces choses-là. Donc, quelle est cette chose pour toi aujourd'hui, si tu es sceptique ou pas un chrétien? Sur quoi mises-tu ta vie? Quelles sont tes chances et quelle est ta récompense? Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes « Seigneur, je veux te donner ma vie. » Ben, gloire à Dieu, je priais pour toi ce matin. Vous pouvez venir nous voir après le service ou vous pouvez appeler l'église ou voir un pasteur, que ce soit Michel ou Yannick, Luigi. Gloire à Dieu. Ou peut-être que vous êtes un chrétien et que vous passez juste à travers une grande souffrance. Laissez-moi vous rappeler les belles promesses de Dieu. Dans Romains 8, il n'a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et peut-être que vous êtes ici et vous ne misez pas votre vie entière sur Dieu. Vous traitez votre vie comme je donne ma vie à Dieu, un 10% et tout ça, mais comme j'ai dit aujourd'hui, si Jésus est la chose la plus importante dans ta vie, tu ne vas pas y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas la chose la plus importante dans ta vie. Il est ta vie. Il ne veut pas tes deux jetons que tu mets juste pour faire partie de la partie. Il veut que tu sois all-in, le tout pour le tout. Mais en faisant ça, tu trouves un Dieu incroyable, rempli d'amour, qui te permet d'aimer les autres et de l'aimer. Donc, pour résumer, on a vu le prix, les chances, récompenses. Alors aujourd'hui, misez tout sur Dieu, mais comme au poker, lorsque tu es all-in, tu ne peux plus reculer en arrière, n'est-ce pas? Tu es comme, je suis all-in, je ne peux pas ressortir. Puis, ton sort est entre les mains des cartes, quelque sorte. Mais avec Dieu, quand tu te mets all-in, tu ne peux plus reculer en arrière. Mais quelle grâce que notre vie est entre les mains d'un Dieu souverain. Amen. Amen. Allons dans un mot de prière. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci, Christ, que tu es le réchappé et le reste parfait. Qu'à travers l'histoire, même notre propre histoire, on a péché contre toi, on est inconsistant. Un jour on fait ça, un jour on fait une autre chose. Mais merci que tu es constant et qu'on peut faire confiance à tes promesses à cause de Christ, à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Seigneur, je prie que tu nous donnes par ton esprit l'amour, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, l'humilité, la foi, Seigneur. Donne toutes ces choses par ton esprit. Aide-nous à donner notre vie entièrement à toi et de toujours se rappeler que c'est par ta grâce et non par nos propres forces. De ne pas miser sur nous-mêmes, mais de miser sur toi. Puis, Seigneur, le prix, c'est notre vie, mais on la donne avec joie parce que quand notre vie est entre tes mains, ça nous donne une liberté incompréhensible. Puis les chances, notre assurance, c'est même pas une question de chance. Tu es souverain. Et la récompense, beaucoup plus que prospérité, sécurité, même si ces choses nous sont données, mais c'est d'être en ta présence. Sois avec nous dans ce temps de louange. Amen.